Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Les meufs, ça y est, mon livre est sorti. Pouf, je suis aussi stressée que excitée. Ce livre, vraiment, je l'ai écrit d'une traite. C'était une évidence. J'y ai mis tout ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enceinte. Les clés pour comprendre pourquoi on accouche de cette manière aujourd'hui. Pourquoi on peut ressentir un malaise quand on est enceinte face aux injonctions et ce qu'on perçoit au fond de nous. J'y ai mis les chiffres pour naviguer aussi face aux dangers brandis par le système médical et ceux pour comprendre de quoi on parle et des réelles probabilités auxquelles on a affaire. J'y ai mis les liens vers les études aussi pour pouvoir comprendre par soi-même et surtout des propositions pour modifier ces schémas de pensée, réfléchir différemment, réfléchir ensemble aux questions de responsabilité, de santé physique mais aussi mentale, émotionnelle, relationnelle et plein d'autres choses. Et puis j'y ai mis plein de ressources aussi pour se préparer au mieux, mentalement. Il coûte 9,90€. Allez le commander chez votre libraire pour qu'il l'ait en stock et dites-lui s'il vous a plu pour l'inciter à le recommander à d'autres personnes ensuite. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le changement de point de vue sur les accouchements. C'est votre histoire, mais c'est aussi la nôtre, à nous toutes qui donnons naissance, ou pas d'ailleurs. Retrouvez le pouvoir d'enfanter, c'est le titre de ce livre et il n'attend que vous. Bonne lecture et bon épisode.
Je disais que j'allais faire le podcast en avril.
Ouais. Ah oui, qu'il n'y avait pas jamais suffisamment
ouais,
de ressources. Était,
on ne sera jamais trop nombreuses. Ouais.
Et il y a deux ou trois personnes là, qui m'ont dit « Roxane, n'écoute pas, mais écoute le dernier épisode de Bliss ». Donc bon, moi, j'écoute plus Bliss parce que je ne peux plus. Mais... Ouais. Et effectivement…
Tu vas garder ça au montage ?
Je sais pas, je vais voir.
Mais parfois,
je
fais attention, moi, de pas dire trop de mal, mais des fois, je craque quand même. Hein. Ça m'arrive de dire, écoutez, allez écouter Bliss, en fait. Mais en fait, c'est nous travailler.
Ouais. Ouais. En fait, moi, je fais des épisodes où je fais des relectures de Bliss, ou quand il y a des épisodes où il y a beaucoup d'âneries qui sortent ou des choses qui moi me semblent pas ok. Après, j'en parle, tu vois. Et là, dans l'épisode qui est sorti hier, apparemment, donc là, j'en suis qu'au début de l'épisode, mais on m'a raconté qu'à un moment donné, il y a un peu une promotion qui est faite du déclenchement à 39SA, de l'étude arrive.
Non.
Voilà. Et en fait, on a le droit de pas tout être d'accord. Le système médical, il est très, très, très puissant et c'est évidemment normal qu'on en soit encore tellement nombreuses à être endoctrinées et à pas se poser les questions. Et l'idée, c'est pas de juger les gens, mais simplement, effectivement, à un moment donné... Elle a 60 millions d'écoutes.
Ah oui, quand même.
Et 60 millions
de personnes qui vont dire « Ah, c'est pas mal de se faire déclencher à 39. »
Ouais, et en fait, donc, il y a un moment donné où c'est pas possible. Donc, il y a un moment donné où c'est pas possible. Moi, je trouve qu'il faut peser de l'autre côté, dans la balance. Donc, il y a ce que tu fais, il y a ce que je fais, il y a plein de nanas qui font des trucs super sur Instagram ou ailleurs. Donc c'est pour dire que...
Oui, on sera jamais trop nombreux.
Ah,
non,
là,
ça,
là,
c'est
là,
sûr,
là.
Ouais. C'est vrai que c'est... En fait, ce qui est terrible aussi, c'est cette manie d'essayer de faire avaler la pilule tu vois, pour la maison des maternelles et Bliss aussi, qu'on est pour la physiologie, hein, qu'on trouve ça formidable, les accouchements physio. Mais bon, n'oublions pas qu'une femme sur 10 se vide de son sang. N'oublions pas qu'après 39, le bébé est en danger. Donc, c'est terrible parce que les gens se disent non, mais ces gens-là sont pour l'accouchement à domicile, ils nous le disent. Mais ils disent quand même qu'on peut se vider de son sang. Donc, tu vois, je trouve ça hyper vicelard, quoi.
Ouais. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, je pense que ce que fait Bliss et la maison des maternelles, peut-être dans une autre mesure, c'est qu'elle démocratise un sujet, et c'est très très bien, et vraiment, ça c'est super, elle a ouvert la voie, mais à un moment donné, elle va pas assez loin. Bah, c'est trop politique, et de vouloir être lissée comme ça, que tout est bien, tout est gentil, ah, t'es pas tombée sur une gentille sage-femme, mais en fait, c'est pas la question de pas être tombée sur une gentille sage-femme, c'est le système qui est problématique, et donc, Clémentine, elle a pas encore compris ça, et la maison des maternelles, ils ont pas encore compris ça, j'espère qu'un jour, ils vont le comprendre, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi, oui, d'avoir ce discours très policé, bon bah oui, ok, super, mais... D'un côté, t'as l'impression, parce que tu vois, elle dit beaucoup, oui, aujourd'hui, les femmes, elles sont éduquées grâce à Bliss et tout. Oui, tu donnes plus la parole à des personnes qui ont accouché dans leur baignoire et tout, mais aussi à des horreurs comme ça, comme, je suis tombée sur une mauvaise sage-femme, ou alors l'étude arrive, tout le monde déclenche à 39 et ça, c'est OK. Voilà, moi je trouve qu'elle va pas assez loin politiquement, et c'est ce que je dis, et enfin moi non, je pense fait, que je suis au clair avec ça, et enfin tu vois, c'est pas une critique, c'est simplement moi je suis pas d'accord, et tu vois.
Oui, c'est ça. Non mais plus, c'est même pas qu'elle va pas assez loin, parce que pour elle il y a pas besoin d'aller plus loin, parce que pour elle la physiologie c'est un mythe. Elles y croient pas. Enfin, elles sont persuadées que c'est mieux à 39 de déclencher. Elles sont persuadées qu'une fois sur 10, tu te vides de ton sang. Elles sont persuadées que, globalement, quand même, accoucher, c'est quelque chose de dangereux. Oui. Et elles essayent de temps en temps de s'encanailler en parlant d'accouchement un peu plus physio, mais elles y croient pas du tout. Elles ont pas du tout la connaissance de la physiologie, donc elles peuvent pas aller plus loin. Elles sont déjà à leur maximum, en fait.
Oui, mais bon, peut-être que c'est son maximum aujourd'hui.
Oui, ça peut évoluer. Je sais pas.
J'ai envie de penser ça.
Et puis c'est en moi ce qui depuis le début ma motivation première dans tout ça c'est d'inviter au voyage de l'enfantement. C'est pour ça que j'ai fait le film, je voulais qu'on aborde la naissance comme un qu'on aborde la naissance comme un rite de passage, mais rien que de dire ça déjà tu risques de te faire caillasser, un rite de passage lol, on n'est plus au Moyen Âge. Mais bon, bah, sauf que de dire que de sortir le bébé, enfin qu'il faut couper le cordon très tôt, ou au moins mettre le bébé plus bas que le placenta, sinon c'est des vases communicants, ça j'appelle ça des croyances du Moyen-Âge. Quoi. Donc nous, bien on sûr. Est avant-gardistes sur la physiologie, enfin, c'est ce que dit Michel Audin aussi, c'est que de s'intéresser à la physiologie moderne avec toute cette connaissance du système endocrinien, du travail des hormones, des récepteurs à la mélatonine sur l'utérus, donc que l'utérus est directement sensible à l'obscurité, etc. Ça, c'est très avant-gardiste, en fait. C'est pas du tout revenir au temps de nos grands-mères. Donc, le côté rite de passage, ça, pour moi, c'est un retour à quelque chose d'avant le néolithique, quoi. Hein. Comme il peut y avoir encore, alors de moins en moins aujourd'hui, les sociétés primitives, il n'y en a pour ainsi dire plus, mais il y a toujours eu pour les hommes des rites de passage. Je disais encore à je ne sais pas qui hier, il y a des gens qui traversent l'Atlantique pour aller prendre de l'ayahuasca pour ouvrir leur chakra. T'as pas besoin de traverser l'Atlantique, t'as qu'à accoucher sans péri, tu vas ouvrir tes chakras. Enfin, pour moi, c'est un voyage initiatique, la naissance physiologique.
Ouais.
Alors toi, t'as pas eu mal pour le deuxième, je suis presque déçue. Moi, j'ai bien eu mal pour mes trois, mais j'ai à aucun moment regretté d'avoir fait ce choix-là, parce que c'est une douleur qui a du sens et qu'on se sent tellement bien après et tellement heureuse et fière d'avoir fait notre job de femelle mammifère. Hein. Ouais. En mettant notre bébé au monde dans les meilleures conditions qui soient pour lui et en touchant ce moment-là de... Bon, bah, si on a pas mal et qu'on est au bord de l'orgasme, je trouve ça super, je sais que ça existe, c'était pas mon cas, mais moi je suis contente d'avoir vécu ce truc où à un moment t'as juste envie de mourir tellement c'est intense, mais que c'est juste avant d'accueillir ton bébé et que là t'es dans un état incroyable, magnifique. Donc moi c'était ça que j'avais envie de proposer dans Faut pas pousser, en fait, une invitation à ce voyage-là. Parce que moi, j'étais convaincue depuis ma première grossesse que tout ce suivi, il était absurde, infantilisant, pénible, et qu'il n'y avait rien à faire qu'à laisser faire et que mon bébé trouverait la sortie. Bon, bah, c'est ce qu'il a fait. Donc, mais je me disais, pour que les femmes écoutent ça et s'y intéressent et se disent « tiens, oui, pourquoi pas ?» Il faut d'abord démonter tout le mythe de l'accouchement, c'est dangereux, toutes les femmes mouraient en couche, on a besoin du médecin, la position des cuspidus dorsales est la meilleure, etc. Donc tout le film est fait pour juste apprécier la séquence de fin, en fait. C'est-à-dire qu'on a compris que les protocoles étaient iatrogènes le plus souvent, qu'il y avait beaucoup trop de déclenchements, qu'on nous bourre un peu le mou en nous disant « c'est une proposition qu'on fait aux parents ». Alors, elle est super, hein, Sandra Bell, c'est une chouette gynéco, mais bah, elle est dans son rôle. Hein. Donc, c'est une proposition qu'on fait aux parents. Bah, oui, on s'en rend bien compte. Hein. Toutes les femmes qui viennent te voir, me voir en disant « on doit me déclencher demain, je ne veux pas bah, ». En fait, c'est une proposition, donc tu peux la refuser. Mais on ne leur a pas dit ça. Donc, de comprendre toute cette industrialisation. Voilà. Ils font sans doute ce qu'ils peuvent avec les cartes de l'instant. Ils ne sont pas assez nombreux peut-être. Ils n'ont rien compris à la physiologie, c'est sûr. Et donc, faut organiser le service. C'est Amina Yamnian qui nous le dit. Donc, une fois qu'on comprend ça, qu'on comprend que la formation n'est pas sur la physio, qu'on comprend ce que c'est que la physiologie, qu'on comprend les conditions nécessaires pour qu'une femme accouche facilement, d'un coup, ça prend une autre couleur. Et on peut s'imaginer vivre ce voyage initiatique, ce rite de passage qui ne veut pas dire risquer sa vie, ça, c'est faux. En fait, on ne risque pas sa vie quand on choisit d'accoucher chez soi, c'est du pipeau. S'il y a un truc qui ne se passe pas bien, on le sent, on le sait, on part à la mat. Mais en fait, ça n'arrive pour ainsi dire pas. Enfin...
Alors, de un, et puis de deux, ce n'est pas parce que tu accouches à l'hôpital que tu vas vivre,
ah bah non, c'est
que
clair,
ton bébé va vivre, que tu vas en ressortir sans aucun dommage psychologique, émotionnel ou physique. Donc ça, c'est un truc aussi, je pense que c'est l'église qu'il faut mettre au milieu du village et que j'essaie de faire hyper souvent, c'est que tu peux mourir en accouchant chez toi, oui, d'accord. Tu peux mourir en accouchant à l'hôpital, en fait. Il faut arrêter de penser que en accouchant à l'hôpital, oui, mais bon, s'il se passe quelque chose, au moins, je serai en sécurité. Mais pas du tout, en fait. Ça, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un mensonge pur et dur. Je voulais revenir sur ce que disais, sur le truc de rite de passage. Moi, j'aime beaucoup ce truc-là et je pense que c'est très vrai. J'ai peur que... il y a des gens à qui ça parle pas. Moi, je pense que quand j'étais plus jeune, ça m'aurait pas parlé parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper terre à terre et les trucs, tu vois, les gens qui veulent ouvrir leur chakra en prenant de l'ayahuasca, c'est quelque chose qui me parle pas du tout. Donc, j'essaie de respecter les gens qui ont des croyances comme ça. J'ai reçu notamment Marie dans le podcast il y a plusieurs mois qui nous raconte son accouchement incroyable sous ayahuasca. Et on a dit, il y avait du méconium et tout. Et Sacha m'a dit, OK, il y a du méconium. Je suis en train de mettre ma peur là, dans ce qui est en train de t'arriver, je m'en vais, je reviens et on voit ce qui se passe. Le bébé est né en parfaite santé, donc, mais full méconium, full. Et le bébé est né en parfaite santé, donc tu vois, c'est un récit qui doit être entendu et que je suis contente d'avoir pu proposer. Mais c'est vrai que moi, le truc d'ayahuasca, par exemple, c'est un truc, moi j'ai peur des drogues, donc moi j'ai un rapport à la drogue qui est encore compliqué, mais moi je ne suis pas du tout là-dedans et... Et j'ai des conversations comme ça avec des gens qui me disent « oui, en fait, c'est un peu difficile quand le fait de vouloir accoucher chez soi, c'est forcément associé au féminin sacré, à ton utérus. »
Ah, mais j'aime pas du tout ce truc-là de féminin sacré.
Voilà. Mais du coup, c'est vrai que moi, je parle pas trop de rite de passage, même si je pense que foncièrement, c'en est un et que vraiment, ça te transforme et tout. Parce que je me dis que ça pourrait faire peur à des gens et moi, je veux juste... Enfin, moi, je me dis que j'ai envie d'avoir un discours dans lequel, et il est différent de tous les autres, et ils sont tous audibles et c'est très bien, mais juste de se dire, en fait, juste accoucher, ça n'a rien à faire à l'hôpital. En fait, juste ça. Et accoucher, oui, c'est comme t'es malade, tu vas vomir. Bon, alors, c'est pas une bonne analogie, parce que quand t'es malade, t'es pas bien, alors que là, tu vas accoucher et t'es bien, potentiellement, tu vas avoir de la douleur, mais juste, c'est un truc qui n'a rien à faire à l'hôpital, à moins qu'il y ait une vraie couille à un moment donné, et bah, t'iras à l'hôpital, mais... Et foncièrement, effectivement, quand tu as accouché sans péridurale ou chez toi, forcément sans péridurale, tu vis quelque chose qui te transforme. Et effectivement, moi, j'ai pas l'impression que quand tu accouches avec péridurale, tu vis cette transformation-là dans le sens où bah, il y a quand même une grosse passivité, tu peux pas vraiment prendre de décisions et tout. Et donc, je sais que c'est pas toujours le cas et tu peux quand même vivre une vraie matrescence quand tu accouches avec ta péridurale et tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce fait de se dire, une fois que tu as accouché sans péridurale dans ta pleine puissance, et je ne parle pas, ce n'est pas une puissance mystique, c'est juste dans ton entièreté, dans ton être, en fait, il n'y a plus rien qui peut te marcher dessus. Il n'y a plus une société qui peut te dire quoi faire, il n'y a plus rien. Alors que si tu as été accouché avec péridurale et que tu as des médecins qui t'ont dit qu'il fallait faire X, qu'il fallait faire Y, que Z était mieux pour ton bébé, bah, t'as pas réussi à cheminer dans ce sens-là. Et c'est pas une question de réussir ou de pas réussir, mais juste,
Tu t'es pas donné la chance de, en fait. C'est la chance oui, de penser ou... par toi-même, bah oui, je vois bien que tu veux pas brusquer.
Non, je veux pas brusquer, mais parce que foncièrement, mais moi, pour ma première, je... Pour moi, c'est pas de ma faute si j'étais accouchée à l'hôpital. C'est pas moi qui me suis pas donné ma chance. J'étais persuadée de faire le meilleur. Mmh. Et... Même s'il y a un truc... Non, j'ai même pas de truc de culpabilité, en plus. Je me dis vraiment pas que j'ai raté un truc.
Non, bah non.
On m'a volé mon accouchement.
Ouais, bah
la
oui.
société, comment j'ai été construite en tant que femme et tout, m'a volé cet accouchement. Et moi, je pense qu'on vole les accouchements de 85% des personnes qui accouchent avec péridurale. On leur vole leur accouchement. Mmh. Pour moi, il y a vraiment un truc de... C'est même pas que t'as pas pu prendre ton choix, tu vois ce que je veux dire, ça va au-delà de ça, quoi.
Oui, mais je sais que moi ça me gêne pas de parler de rite de passage et j'y tiens, mais parce que c'est enfin comme la puberté est une transformation, devenir mère c'est une transformation. En psychiatrie d'ailleurs, on dit que c'est des moments clés qui peuvent déclencher des psychoses, enfin révéler des psychoses, soi-disant. Bon après voilà, on va pas s'étaler sur tout ça, mais c'est des moments charnières de toute façon de devenir mère physiquement. C'est une transformation. Et moralement, tu deviens responsable d'un autre être humain que toi-même. Le problème, c'est qu'on est dans une société où on n'est même pas responsable de soi-même. C'est-à-dire qu'on peut faire de la merde avec sa santé. La sécurité sociale est là pour rattraper toutes les conneries. Ouais. On peut bouffer mal, ne jamais faire de sport, ne pas prendre soin de son sommeil, fumer, se défoncer, boire. La société est là pour sauver. Donc moi, je peux être franchement imbuvable si je me mets à me lâcher là-dessus. Mais moi, je pense que si on devait payer nous-mêmes nos frais de santé, on ferait un peu moins n'importe quoi. Sans doute que McDonald's cartonnerait moins. Donc, en fait, c'est prendre conscience de nos super pouvoirs et assumer notre responsabilité. Donc, j'aime bien l'idée de rite de passage parce que c'est une manière moi, je trouve que ça donne envie de traverser cette tempête parce que, bon, pour ce qui me concerne, c'en était une que j'ai vécue 3 fois. J'ai eu mal, je ne vais pas dire le contraire, donc je trouve ça merveilleux de ne pas avoir mal. Moi, j'ai bien morflé pour chacun de mes accouchements, mais j'ai quand même remis ça à chaque fois chez moi. Et quelle était ma motivation ? D'abord parce que pour moi, c'était le meilleur pour mes bébés de naître comme ça, c'était une évidence, que c'était chez moi que j'étais le mieux. Enfin, si ça avait été à refaire, j'aurais refait la même sans hésiter. Et puis parce que c'est se dépasser, c'est vivre un truc transcendantal que je maîtrise pas, j'ai rien à faire, j'ai encore trop fait parce que si j'avais davantage lâché les commandes, j'aurais certainement eu moins mal. Mais c'est pas grave, ça s'est hyper bien passé. Hein. Mais donc c'est ce truc en fait, moi je compare tout le temps à faire une transat à la voile. Qu'est-ce qui pousse des navigateurs et des navigatrices à faire une transat en solitaire? C'est quand même vraiment une idée de merde. Il suffit de prendre l'avion. Là, tu te prends de la flotte, t'es mouillé tout le temps, tu dors mal, tu bouffes mal.
Tu peux mourir.
Tu peux mourir. Tu vois, pourquoi faire une transat en solitaire? Faut être complètement con. Pour moi, c'est la même chose. C'est le même choix. Et parce que quand t'arrives de l'autre côté, et quand tu l'as fait à la voile en solitaire ou quand tu sors d'un avion, c'est pas exactement le même kiff quand même. Donc bon, moi, je ferais pas de transat en solitaire. En famille, peut-être, parce que tous mes gars font de la voile, mais... C'est la vie est courte et moi j'ai envie de vivre des choses intenses. Enfin, et pourtant, je ne suis pas une adepte des sports extrêmes et tout ça. Pour moi, mon sport extrême, c'est d'être indépendante et puis d'accoucher chez moi. Voilà. Chacun sa manière, tu vois, et puis de faire du sport et d'essayer de progresser aussi en sport. Mais donc, moi, il y a quelque chose de transformateur et surtout d'assumer sa responsabilité. En fait, pour moi, le mot qui me tient le plus à cœur, c'est responsabilité. Et c'est pour ça que que je plais pas à tout le monde, la péri c'est super, je comprends très bien qu'on la prenne, c'est pas grave, pour moi le plus tard possible c'est le mieux, et puis si tu craques parce que t'en peux plus, c'est pas grave, du moment, si t'as fait déjà un bon bout de chemin avec péri, c'est top, tant mieux, c'est super pour ton bébé, c'est super pour toi, t'as senti les choses, à un moment t'es fatigué, t'as besoin d'une pause, tu prends une péri avec un peu de bol, pas trop mal dosé, ça te donne du répit, et puis ensuite tu laisses courir, et la phase de poussée se passe bien, etc. Donc ça n'est pas un échec. C'est pas un échec, mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est de ne rien prendre, rien du tout, en fait, rien. Voilà, c'est juste de laisser mon corps faire son boulot d'un bout à l'autre, avec aucun geste invasif, aucun produit, aucun rien. Laisser mon corps faire son boulot. On vit pas longtemps. Dans 50 ans, a priori, je serai morte. J'aurais au moins vécu ces trucs-là où mon corps a fait son boulot pleinement. J'ai nourri mes enfants et je suis heureuse d'avoir fait tout ça. Et c'est compliqué en ce moment parce qu'on peut même plus dire qu'on kiffe d'avoir nourri ses enfants avec son lait parce que c'est culpabilisant pour ceux qui achètent du Nestlé. Bah merde, en fait, achetez du Nestlé, assumez vos choix. Il y en a plein d'ailleurs qui l'assument très bien et qui n'ont aucun problème avec le fait qu'on vante les mérites de l'allaitement. Mais on peut aussi se faire défoncer parce qu'on dit que l'allaitement, c'est mieux. Oui, l'allaitement, c'est mieux. Voilà. Et oui, accoucher physiologiquement, c'est mieux, pour le bébé au moins. C'est pour ça que j'assume ma petite phrase.
Pour la mère.
Oh, voilà. Alors, pour la mère, évidemment, mais la mère, éventuellement, elle a mal. Mais pour le bébé, clairement, si tu lui demandais son avis, il aimerait bien que sa mère accouche physiologiquement. Pour ça que moi, j'assume ma petite phrase, que j'ai déposée d'ailleurs. Offre à ton bébé la naissance qu'il mérite, parce que c'est ça, c'est lui offrir la naissance qu'il mérite. Alors, on n'est pas obligé de faire ce choix, mais qu'on n'emmerde pas celles qui le font en disant qu'elles sont culpabilisantes. Je trouve qu'on est arrivé à une époque où c'est vraiment très compliqué. On ne peut plus rien dire sans être culpabilisant. Il faut vanter les carottes râpées en barquette. Il faut vanter le lait artificiel. Bientôt, il faudra vanter la césarienne sous anesthésie générale. Sinon, on est culpabilisant.
Alors, bon, il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais revenir, donc je vais essayer de
faut partir. Elle va tout couper. Non, elle n'est pas sortable, cette meuf.
Non, alors pas du tout, je vais tout laisser. Mais donc, d'abord, sur cette question de la culpabilité, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus. On parlait de faire des petits épisodes solo. Mm-hmm. Il n'y a pas très longtemps, justement là-dessus. Et en fait, moi, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que ce que moi, je dis juste quelque chose, en fait. Si toi, tu le prends mal... Mm-hmm. Bah c'est ton problème. Alors, sauf si je dis quelque chose, genre, j'en sais rien, moi, t'es qu'une conne telle chose, machin. Moi, ok, d'accord, je suis pas très sympa et là, j'ai une responsabilité. Mais quand je dis ou que tu dis que l'allaitement, c'est mieux, c'est comme ça, c'est les études qui le disent. Et effectivement, je suis faite pour donner du lait à mon bébé. Enfin, c'est quand même chelou de se dire que du lait en poudre, c'est aussi bien. Bon, là, j'ai dit le mot chelou, donc ça peut être un peu culpabilisant. Mais ce que j'ai pas pris un bon exemple, mais oui, le fait est que moi, j'ai du lait dans mes seins et que c'est fait pour allaiter mon bébé. Bon, bah, c'est comme ça, en fait. Et toi, tu le prends mal, c'est ta responsabilité. Et en fait, c'est un vrai truc de réfléchir à cette question d'indépendance émotionnelle. Et donc, ça, c'est un gros sujet aussi. Mais je pense qu'il faut vachement bosser là-dessus. Si tu te sens attaqué par ce que j'ai dit, c'est que ça touche quelque chose en toi, en fait. Et potentiellement, c'est pas moi le point. C'est parce que moi, je dis. C'est que toi, t'es peut-être pas au clair et t'es peut-être pas aligné avec le truc, tu vois.
Ah bah oui, c'est sûr. Idem pour l'accouchement sans péridurale. J'ai eu récemment une qui est venue me casser les pieds en me disant que je disais n'importe quoi, qu'elle avait eu des merveilleux accouchements sous péridurale. Si vraiment c'était merveilleux, pourquoi tu viens m'agresser? Si tu es heureuse de tes accouchements, je n'ai pas de problème avec ça. Il y a 700 000 bébés par an qui naissent sous péridurale. Mais très bien. Mais en fait, il y a suffisamment d'informations ou de désinformations, on dira ce qu'on voudra, sur l'accouchement avec péridurale. Regardez Baby Boom, regardez Profession Sage-Femme. Voilà, il y en a plein des discours qui te montrent à quel point la médicalisation de la naissance est formidable. Moi, j'ai choisi d'accompagner les femmes qui veulent faire différemment. C'est pareil pour toi, Roxane. Dieu sait que la route n'est pas fastoche pour aller au bout de son projet d'accoucher physio dans ce pays. Donc, laissez-nous quand même, si ça ne vous dérange pas trop, celles qui sont ravies de leur accouchement sous péri, allez voir ailleurs, mais laissez-nous travailler.
Et en fait, c'est ça, c'est que nous, et je pense que toi comme moi, ce dont on parle, c'est de l'augmentation des risques. C'est simplement que quand tu prends une péridurale, quand tu te fais déclencher, tu augmentes les risques que quelque chose se passe mal. Ça ne veut pas dire que ça va forcément mal se passer, oui. Moi, j'ai une copine qui est ravie de sa péridurale. Et puis j'en ai d'autres qui ne sont pas du tout ravies de leur péridurale. Donc, je voulais reparler de ça. Le truc aussi de responsabilisation, de responsabilité, ça, c'est... je pense que c'est vraiment au cœur de notre système qui est problématique. Et donc, c'est pas que en France, c'est dans plein de pays, mais ce truc d'infantilisation,
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Déjà, en tant qu'individu, t'es complètement infantilisé. Mais alors, quand t'es enceinte, alors, laisse tomber. Et effectivement, c'est à cause de ça que bah, voilà, les médecins, les soignants, bah, ils se sentent obligés parce qu'on leur met la responsabilité de ta potentielle mort, la potentielle mort de ton bébé, mais en fait, c'est pas leur point. Et potentiellement, c'est le point de personne, en fait, s'il s'est passé quelque chose. Bon, sauf s'ils ont déclenché, qu'ils ont mis une péridurale. C'est de leur faute si le bébé a eu un problème. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais potentiellement, s'il doit se passer quelque chose à un moment donné alors que tout allait bien, et bah, peut-être que c'est juste comme ça et que c'est de la responsabilité de personne. Ou alors, si ça doit être de la responsabilité de quelqu'un, bah, c'est de la personne qui était en train d'accoucher, pourvu qu'on les laissait tranquilles. Parce que ouais. Dans le système actuel, moi, je ne pense pas que les personnes qui accouchent, elles sont vraiment maîtresses de ce qui leur arrive. Donc, ce dont je parle, c'est quand même très hypothétique. Mais par contre, ce truc de... tu vois, et moi, je suis assez d'accord. Je pense que la sécurité sociale, elle est problématique en France. Parce que... bah, on se rend plus compte, en fait. On n'a plus de rapport à la santé et à ce que ça peut faire. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que par exemple, aux États-Unis, les soins ne sont pas remboursés.
Non, mais bien sûr, je fais exprès d'être un peu intègre.
Non, mais du coup, moi, je pense que c'est...
extrémiste.
Et c'est mon job de remettre de l'équilibre. Mais du coup, aux États-Unis, tu dois payer pour tes soins. Et bah, pourtant, là-bas, voilà, le diabète, rien ne va dans ce pays. C'est un enfer. Donc, ce n'est pas qu'une question de ça. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi que ça joue, en fait, le fait d'être complètement déresponsabilisé de « bah oui, tu manges mal, tu vis mal, tu fais que bosser ». Il n'y a plus aucun équilibre et du coup, bah, oui, il y a un moment donné où ça ne va plus, mais ce n'est pas grave parce que tu vas prendre des médicaments et tu ne t'en rends même pas compte. Enfin, moi, à chaque fois, ça me sidère. Donc là, j'ai une bronchite, ça fait un mois qu'elle me traîne, maintenant j'en ai marre. Effectivement, ça me sidère un peu de sortir de la pharmacie, genre j'ai rien payé. C'est génial. Et à la fois, je ne sais pas, tu vois. Bon, alors, la bronchite, je ne l'ai pas choisie, j'ai essayé de me soigner autrement qu'avec des médicaments.
Oui, non, mais en fait, mais, tu on vois, a le droit à puis, l'erreur. Hein, c'est pas...
Non, mais ouais, mais... Donc,
puis en plus,
la
sécurité
tu sociale, c'est un truc cool.
Non, mais bien oui, sûr. Mais bien sûr que c'est bien sûr.
Il y a des
chouette.
Gens qui se font arracher une jambe. Bah, t'as oui. Des gens qui n'ont pas d'argent. Enfin voilà, c'est génial de pouvoir les aider. Mais effectivement, moi, je pense qu'il faudrait revoir tout ce système. Peut-être échelonner des choses qui sont remboursées par remboursées. Peut-être aussi en fonction de ton revenu à toi. Alors il y a
ouais,
après
non,
ça.
Non, et puis la multirécidive, si tu veux, c'est juste, tu vois, quand on est à ta troisième grève de je ne sais quoi, parce que t'as une hygiène de, t'en auras une, la deuxième, tu la payes de ta poche, quoi. Tu vois, si t'as pas rectifié ta façon de fonctionner,
mais
si
ça se
tu
trouve,
continues
c'est pas que
de faire
ça,
n'importe
ça se trouve,
quoi.
C'est génétique. Enfin,
non, mais bon, bref, tu comprends bien l'idée. Si vraiment tu fumes 3 paquets par jour, t'as une santé dégueulasse et tu continues de fumer 3 paquets par jour et de jamais rien faire pour être en bonne santé.
Tu payes ta chimio.
J'en sais rien. Non, mais j'en sais rien. Les cancers touchent tout le monde. J'ai pas de recette absolue. Tout ce que je vois, c'est que les gens bouffent mal, ne font pas de sport, boivent beaucoup trop de Coca-Cola et regardent beaucoup trop TF1 et sont globalement déresponsabilisés de leur santé. Mais c'est super pour les enfants, par exemple, que les soins pour les enfants coûtent rien aux parents. Ça permet aux parents qui n'ont pas trop de sous de prendre bien soin de leurs enfants. Et puis les yeux, les dents, etc. Mais,
pas sûr.
Mais je trouve que ça va loin, en fait.
Ouais.
Je trouve que ça va loin chez nous. Mais je n'ai pas de solution parfaite. Effectivement, aux États-Unis, c'est la cata. Mais surtout pour les enfants. Moi, c'est vrai que c'est pour les enfants que ça me touche le plus, parce que les loulous, pour le coup, ils sont quand même obligés de faire avec leurs parents. Ils ne nous ont pas choisis, ou il paraît que si, mais j'en sais rien. Et donc, qu'il y ait quelque chose qui accompagne les parents pour que les enfants aient le meilleur, que ce soit l'école et la santé, c'est bien. Mais moi je trouve dommage que ce soit pas un peu plus encouragé de bouger, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas beaucoup de sport, enfin je sais pas, les escaliers au lieu de l'ascenseur une fois le temps, enfin tu vois, je sais pas.
Oui, mais non, mais là-bas c'est vraiment la bouffe, donc oui, ils bougent pas forcément, mais c'est surtout la bouffe. Enfin, moi, pour avoir vécu un peu là-bas,
aux États-Unis
pendant
c'est un
2 ans
la cata
et demi,
on boit plus de coca que de flotte quand même,
oui,
quoi.
Voilà, ils boivent pas d'eau parce que c'est pas bon. Le petit déj, le goûter, c'est des chips, enfin tu vois, oui. il y a pas de notion de bien manger. Mais bon, si on vient à notre sujet,
bon, enfin bref, moi,
on pourrait discuter
pendant
ça, mais
insupportable, mais parce que je trouve qu'il y a une satisfaction à se donner les moyens de faire des trucs qui ont un peu de sens, quoi, et que de sortir, pas forcément courir, mais ne serait-ce que marcher, de prendre l'escalier, enfin, de se bouger, on est content, enfin, on se sent mieux le soir quand on a bougé que quand on n'a pas bougé, de sortir le nez de son ordi, je sais, moi, je me force moi-même à pas rester trop collée sur mon écran et à prendre l'air, et à prendre soin de son corps. En fait, il nous porte toute notre vie. On le regrette à la fin quand on a tout cassé la machine. Et c'est dommage de ne pas en faire une priorité, en fait. Et pour moi, ça va dans le même sens que d'accoucher sans péri et d'allaiter, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. D'abord, l'allaitement, ça protège maman, ça protège bébé. Donc, on est toujours dans le choix. On a le choix de tout. Tout est commandable sur Amazon. Tout est remboursable, tout est machin. Et on se perd avec tout ce choix. Enfin, c'est... Je trouve... Moi, c'est vrai que quand j'entends que c'est chouette... de pouvoir reprendre sa vie d'avant quand on a des enfants, en les mettant à la crèche à 5 semaines et en ayant Nestlé à la rescousse, moi, ça me chagrine, en fait. Tu reprends pas ta vie d'avant quand tu as des enfants. C'est plus la même chose. Et tant mieux, parce qu'on va pas rester des ados attardés toute notre vie. D'être parent, c'est une sacrée mission. Donc, on peut pas rechercher, en ayant des enfants, à retrouver sa vie d'avant. Je trouve ça dommage, quoi. Ouais. C'est différent, c'est autre chose. Tu composes autrement et t'essayes de le faire de ton mieux. Ça va pas durer, hein. Dans quelques années, ils vont partir de la maison. Et... Donc, est-ce qu'on peut pas quand même essayer de donner le meilleur ? Je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre de vouloir faire comme s'ils étaient pas là, des fois, tu vois ?
Ouais.
Que ce soit pas encombrant.
Mais ça, c'est le capitalisme.
Bah oui,
c'est quand juste même. Ça, quoi.
Bah oui, c'est ça.
Se faire
pigeonner par la société de consommation.
Tu vas pas rester à la maison à pas générer d'argent avec ton enfant. C'est quand même plus sympa si tu restes indépendante, aller gagner ton argent. Et du coup, ça me fait penser à ce... Je sais pas si tu l'as vu. Alors moi, évidemment. Merci, Monsieur Macron. Mais non, je pense à cette vidéo que t'as peut-être pas vu passer de Nina Ramen. Si, Nina Ramen, je pense qu'elle s'appelle Nina aussi. Et donc, qui a fait un buzz horrible. Et en gros, elle dit moi, avec mon mec, on a décidé de faire un vrai 50-50. C'est-à-dire que moi, pendant 9 mois, j'étais enceinte. Et les 9 mois à la naissance de mon bébé, je n'ai pas touché à mon bébé. Je suis retournée travailler, je suis retournée faire grossir qui je suis en tant que personne, en tant que... Et après, je ne me rappelle pas très bien ce qu'elle dit, donc je ne veux pas paraphraser, mais peut-être...
Il faudrait que j'écoute ça.
Bon,
cette vidéo est
horrible. Et en fait, je comprends ce qu'elle veut dire. Moi, j'ai pensé comme elle aussi, de se dire, mais moi aussi, je veux être une femme libre, indépendante, je veux gagner mon argent. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait aucune égalité dans la parentalité et tout. C'est pas juste. Mais en fait, pour moi, elle ne prend pas, elle et ce qu'elle représente et les gens qui pensent comme ça, ne prennent pas la question dans le bon sens. C'est-à-dire que. En fait, il faudrait que les deux parents aient, je dis n'importe quoi, 6 mois de congé à la naissance de l'enfant et qu'on soit sur un vrai statut égalitaire. Mais de se dire, moi, je sais pas, c'est 9 mois enceinte, en chie, apparemment, elle a une grossesse un peu relou.
Oui, remarque, je suis pas tellement étonnée vu le profil, tu vois.
Et puis, à mon avis, elle a aussi dû avoir un accouchement horrible, donc soit césarienne, péridurale, soit, à mon avis, elle a pas du tout eu le shot d'ocytocine à la naissance. Sinon, je vois pas comment elle aurait pu avoir ce type de discours, quoi. Mais j'ai passé 9 mois horribles à porter mon bébé. Les 9 premiers mois, je ne le prenais pas quand il pleurait.
Non, mais c'est abominable, pauvre gamin, quoi.
Mais pauvre enfant. Et en fait, il y a plus d'humanisation. Il y a
dû prendre un poisson rouge ou un labrador, quoi, qui s'est vraiment gouré, là.
Mais en fait, c'est ça le truc, c'est... On déshumanise, c'est-à-dire qu'un enfant, et donc c'est ce que tu dis, c'est en fait on a fait un enfant, mais après c'est pas grave, peu importe que l'enfant soit là ou pas, on continue là, évidemment. Mais comment
moi,
c'est possible ?
Ça me saoule, tu vois, je voulais me retenir et je finis par le dire, dans ces cas-là, prenez un chien, mais faites pas de gosse, quoi. Parce que le chien, tu peux le ramener à la SPA.
Et en fait, le problème, c'est que on ne veut pas amener les chiens à la SPA
non
plus.
Mais légalement, tu peux le faire. Tu vois bien, tu as bien compris. Mais non, je ne suis pas favorable à ça non plus. Faut que je te fasse un dessin.
Je ne suis pas pour les
chiens abandonnés. Mais tu vois bien ce que je veux dire. C'est que
ça
devient... L'enfant, faudrait faire comme s'il n'était pas là. Enfin, je trouve ça tellement triste et à la fois pathétique de dire les 9 mois suivants, je ne l'ai pas touché. Mais qu'est-ce qui lui a appris de se reproduire, quoi ?
Mais en fait, je pense que, et donc ça se trouve, elle, dans 6 mois ou dans 10 ans, elle se rendra compte de ce qu'elle a dit, et ça se trouve pas du tout, elle se dira « putain, j'ai vraiment été la pire des personnes ». Et ça se trouve pas du tout, et c'est pas grave, mais le truc, c'est que c'est pas que elle, et moi aussi, j'ai pensé ça.
Bah moi, jamais, par contre, non.
Et alors, du coup, ça, c'est des questions sur lesquelles j'aimerais bien qu'on aille après, mais il y a une construction dans notre société, et je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent ou qui peuvent avoir des conversations un jour, de se dire c'est plus grand que nous tout ça. On vit dans un système qui est dégueulasse. En fait, il faut tout questionner pourquoi on vit comme on vit et est-ce qu'on est ok avec ça. Donc parfois on n'est pas ok, mais on n'a quand même pas le choix. Donc je dis pas qu'il faut tous aller vivre dans des yourtes, c'est pas du tout mon propos, mais juste essayer de comprendre pourquoi on réfléchit comme on réfléchit. Est-ce que c'est ok, est-ce que c'est ok de se dire qu'un enfant, en fait ça fait chier, bref. Mais donc, du coup, ça, c'est une question sur laquelle je voulais arriver. D'où ça te vient, toi, ça ? Parce que j'ai l'impression, du coup, que tu as toujours un peu réfléchi de cette manière-là. Donc, le corps est important. Pour ton premier, tu as déjà fait un nana. Enfin, c'est... Comment tu as grandi, toi, en fait ?
Parce que pas comme moi, depuis petite ou non, en tant que maman, tu veux dire ?
Alors non, quand tu étais jeune même, ouais. Tu vois, parce que tu avais déjà ces élans-là.
Non, j'étais punk à l'adolescence.
Okay.
Enfin, new wave, bad calf, t'es grave. Je savais que j'aurais des enfants, ça c'était une certitude, je voulais deux enfants. Je me disais, j'aurais un garçon et une fille, ils s'appelleront Tao et Nina. Bon, j'ai trois garçons, donc le grand s'appelle Tao et Nina, du coup, je l'ai récupéré, puisque c'est un pseudo. Et je ne m'étais pas, par contre, questionné. L'allaitement, ça me semblait évident, sauf que, par contre, en fait, je trouvais ça écœurant à ce moment-là. Mais même quand j'avais 30 ans, l'idée qu'un bébé tête mes seins, je trouvais ça vraiment dégueu.
Je savais
pas. C'était pas une construction. C'est juste que je trouvais ça complètement chelou de me dire à un moment un bébé va téter mes seins. Mais je me disais, quand il sera là, le mien, la question se posera pas. Il tétera et ça me semblera normal, comme n'importe quelle femelle.
Ouais.
Pour moi, c'était évident que ces choses-là allaient se révéler au moment où il faudrait. Tu vois, j'ai vu beaucoup de juments pouliner. Mes grands-parents étaient éleveurs de chevaux. Donc, j'aimais pas spécialement les enfants. J'étais pas très à l'aise avec les enfants. Je savais pas trop comment les prendre. Je voyais bien qu'ils avaient une intelligence, un truc, et qu'ils nous sondent. Les gamins, ça, je le voyais. Et je savais pas trop comment gérer ça. J'étais pas du tout à l'aise avec les bébés. Je trouvais ça inintéressant aussi. Mais je me disais, quand ce sera les miens, je vais kiffer les bébés, c'est sûr. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Donc, quand j'ai été enceinte, alors j'avais déjà des copines qui avaient accouché à la maison, plusieurs. La première fois qu'on m'a dit ça, la première fois qu'on m'a parlé d'un nana, c'était donc un couple d'amis qui vit en yourte, tu fais bien de le dire, qui travaille avec des chevaux. Et je ne les connaissais pas beaucoup. Et quand elle a raconté Audrey, comme ça, un jour, on était en une bande de potes, pour notre troisième fille, quand ça a commencé, j'ai appelé David, je lui ai dit, si tu veux être là pour la naissance de ta fille, c'est maintenant, quoi. Et donc, il est arrivé, on a fait ça à la maison, enfin dans la yourte. Et dans ma tête, je me disais, mais ils sont complètement tarés, ceux-là, ils sont beaucoup trop bas pour moi. J'imaginais le truc sanguinolent, la mort au bout du tunnel, enfin le truc infernal, tu vois. Et ça, j'avais 30 ans, je pense, à peu près. 32 ans, je dirais, parce que c'était au début de mon histoire d'amour avec mon chéri. Ça fait 20 ans que ça dure. Donc, comme c'était des potes à lui. Et après, plusieurs copines plus proches de sa bande de potes ont accouché à la maison. Et donc, c'est devenu un peu plus logique. Mais je pense que même si je ne les avais pas connues, quand j'ai été enceinte, c'est devenu une évidence, quoi. Au suivi de grossesse, ils me saoulaient avec leurs réflexions à me prendre. Enfin, t'as l'impression qu'ils te prennent vraiment pour la dernière des connes, tu vois. Alors, pour ce streptobé, le premier, j'ai dû faire les trucs dans l'ordre, y compris au sullivan, à boire du sucre et attendre une heure avant de se faire des trucs complètement absurdes. Pour le deuxième, j'ai dit, mais c'est très gentil de le proposer, mais on va pas le faire, du coup. Et donc, pour le premier, j'avais dit à Olivier, si je suis inscrite à la mater, j'ai fait tout ce qu'il faut dans les règles, mais moi, a priori, c'est à la maison, quoi. J'avais pas trouvé de sage-femme. On avait rencontré Joël Terrien, qu'on voit au début du film. Donc ça, c'est pas du pipeau. J'étais enceinte de mon premier quand on a rencontré Joël, mais elle prenait sa retraite. Et on avait accepté de la rencontrer pour ce rendez-vous si c'était filmé. Voilà, c'était ça la condition, c'était qu'on accepte que ce soit filmé. Son nom m'échappe, François Landesman, je crois. Journaliste à France 2, alors c'est drôle parce que j'ai travaillé 10 ans pour France 2. Quand elle m'avait dit ça, je me voyais mal refuser une caméra alors que moi-même, j'avais déjà Faut pas pousser en tête. Dès ma première grossesse, je voulais faire ce film et il s'appelait déjà Faut pas pousser. Okay. Quand j'ai compris l'absurdité de la prise en charge et puis que j'ai eu envie d'accoucher chez moi et que j'avais quand même des copines qui l'avaient fait, je me suis dit, je veux faire un film sur la naissance, montrer l'absurdité des protocoles et il s'appellera Faut pas pousser. Donc ça, c'était en 2010, quoi. Donc, on a fait cette rencontre avec Joël, mais on n'est pas allé plus loin avec Joël. Et j'avais dit à Olivier, écoute, il n'est pas question qu'on paye quoi que ce soit, on n'a pas trop de ronds. Ça n'a pas de sens qu'on dépense de la thune qu'on n'a pas pour que j'accouche aux chandelles. Soit je suis toute seule à la maison et puis je suis bien là et c'est bon, soit on va à la maternité, quoi. Et le 26 octobre 2010, ma foi, le travail a commencé, puis j'étais bien chez moi, et puis à aucun moment j'ai eu envie de partir de chez moi, et à aucun moment j'ai eu peur de rien du tout, et j'ai passé de 14h à 21h dans ma salle de bain avec mon ballon, qui est là maintenant, il sort de fauteuil, il n'avait pas de housse à l'époque, Olivier est venu me rejoindre avec Lily, une copine qui avait déjà deux enfants, dont un Anna. Parce que, alors à l'époque, moi, Anna, ça ne voulait rien dire pour moi. Hein. C'était juste accoucher, en fait. Oui. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de notion d'accouchement à domicile, accouchement non assisté. C'est juste, mais enfin, cet enfant va sortir.
Oui.
C'est tout.
Oui.
Tu vois, ça me paraissait tellement évident.
L'immense normalité du truc.
Du
quoi.
Truc, enfin. Et je le dis au début du film, quoi. Je dis, si moi, j'ai des doutes, mon bébé, il trouvera le chemin, quoi. Il me montrera le chemin. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, de 19h à 21h, ils ont été avec moi dans la salle de bain. Mais toute la journée, j'étais toute seule à découvrir, à dire... « Waouh, elle est sympa cette contraction, ça doit être le top du top. Ah, mais non, celle-là est encore mieux. » Mais en fait, c'était génial, il faisait beau, j'avais pas du tout peur et à aucun moment j'ai eu envie de partir et il est né. Bon, mais j'ai poussé trop fort à la sortie, je me suis déchirée, donc je suis allée me faire recoudre. Ce qui nous a permis de rentrer dans la boucle et d'avoir la décla et tout ça, finalement. Mais j'avais pas du tout anticipé ces trucs-là. Hein. Enfin, je m'étais pas dit « j'ai pas le droit, faut être assistée, on va avoir des problèmes de déclaration, de rien du tout. » Ça me semblait... Je lui dis, si on était en guerre, là, s'il faut que j'accouche, j'accouche. Personne ne va venir me dire où est-ce que je dois être pour ça. Je me cache dans un fourré et je mets mon bébé au monde. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, tu vois ?
Ah, bien sûr.
Et c'est ce que je trouve merveilleux aussi dans le jour de la naissance qui est vraiment mis en péril par les déclenchements. C'est justement le fait que tu ne peux pas prévoir... Et que quand c'est le jour, c'est le jour. Et que quoi qu'il se passe dans le monde, le jour où tu dois accoucher, pour moi, c'est t'éteins les téléphones, tu débranches ton cerveau et tu laisses ton bébé naître, quoi. Ouais. Et ça, c'est génial. T'as rien d'autre à faire. Hein. T'as pas à te poser de questions, de rien du tout. Il n'y a rien d'autre qui compte. Il n'y a plus aucune autre priorité. Ce jour-là, t'as zéro question à te poser. T'as juste à laisser ton bébé venir au monde.
Ouais, c'est pas comme ça qu'on le vit. Hein.
Moi, c'est comme ça que j'ai vécu.
Zéro question à se poser... C'est pas comme ça que c'est présenté, quoi. Bah du coup, ça me fait aussi penser à... Enfin, moi, pendant les deux grossesses, on n'a pas voulu savoir le sexe du bébé. Et c'est... Je fais un peu un parallèle avec ce que tu es en train de dire. Nous, on ne voulait pas savoir parce que peu importe. Et en fait, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on ne laisse plus en suspens. On veut savoir. Ah, et on veut savoir quand est-ce qu'on va accoucher. Et on veut savoir qu'on aura pas mal. Et on veut savoir que... je trouve que c'est dommage... Parce que c'est beau quand même de pas savoir quand et l'attente et la découverte. Enfin, moi, je dis toujours, et pour l'instant, je ne suis pas trop vindicative là-dessus, mais je pense que je vais finir par le devenir, mais sur le fait de vouloir absolument connaître le sexe du bébé pendant la grossesse, moi, je trouve que c'est... Les gens ne se rendent pas compte. Et ils disent, non, mais c'est pour me procher. Mais te procher de quoi ? T'es déjà en train d'être sexiste. Enfin, donc les gens, ils vont te dire, mais non, pas du tout, c'est juste je ne sais pas quoi, mais... Donc j'essaie de rester un peu soft là-dessus parce que je sais que je suis très minoritaire et je veux pas brusquer les gens, mais je finirai par le parler.
Moi ça me gêne pas trop de les brusquer là. Il y en a déjà plusieurs qui sont partis depuis longtemps là.
Ah bah je peux dire que je m'en prends plein la gueule aussi tout le temps, mais sur ce truc-là, comme je sais pas exactement comment l'amener pour faire comprendre aux gens.
Non, mais justement, t'as pas besoin d'essayer de l'amener. Tu parles avec ton cœur et puis enfin voilà. Moi je sais que j'ai beau être un peu brutale de temps en temps. C'est merveilleux. Je crée des liens virtuels super avec des femmes qui me racontent leur grossesse, que j'ai éventuellement en visio, qui ont vu le film 10 fois et qui m'envoient ensuite une photo du bébé en me disant que c'est, tu vois, enfin, tu dois connaître la même chose. Donc, moi, génial, en fait. Elles ont aimé que je leur botte un peu les fesses, que j'ouvre les yeux, que j'apporte un éclairage un peu différent, que je sois ni consensuel, ni politiquement correct, ni mes couilles. Et ça leur plaît. Et donc, si ça touche que 10%, c'est pas grave. Tant pis. Les autres trouveront leur bonheur ailleurs.
Je sais pas si c'est une question de politiquement correct. Je pense pas être très politiquement correct. Mais
j'ai pas dit ça pour toi. Non, je dis pas ça pour toi. Je dis pas ça pour toi. En général, je veux dire que j'ai arrêté de me mettre des filtres. J'en ai jamais eu, remarque. Après... Je suis naissant, mais.
Mais en fait, ouais, c'est ça. Moi, je crois que je suis naissant sans filtre. Et en fait, j'essaye d'en mettre parce que parfois, moi, j'ai vachement conscience que je peux être blessante. Mais pas trop en plus dans mes communications sur le podcast ou sur les vidéos, parce que j'essaie vraiment de faire attention. Je peux être plus blessante dans la vraie vie où j'ai beaucoup de mal à mettre des filtres. Pardon mon mec, pardon mes enfants, pardon mes amis. Mais bon, du coup, j'essaie de faire un peu gaffe aux manières.
de dire les trucs. Et sur cette question de l'écho pour savoir le sexe.
Ouais. Bah c'est après chacun fait ce qui. Bon, c'est presque non. pas ce qui me choque le plus, mais c'est vrai qu'on a enlevé toute la magie. Tu vois, moi quand je parle de rituel de passage, il y a ce côté magie.
Mais bien sûr. Mais non, mais c'est bien
et
sûr.
Tu vois, tu disais, il y a des choses qui nous dépassent. Tu parlais de la société de consommation et de toute cette manière de manipuler les masses, parce qu'il faut quand même se rendre à l'évidence. On est, je dis on parce que je suis manipulée comme tout le monde. Enfin, je pense que je suis un petit peu quand même lucide sur certaines choses. Globalement, on manipule la population avec ce grand mirage de la consommation et d'avoir tout ce qu'on veut quand on veut et pouvoir le renvoyer quand on veut. Donc maintenant, les gens pensent qu'ils vont pouvoir faire pareil avec leurs gamins, choisir les options, etc. C'est ça le progrès, visiblement. Mais pour moi, ce qui nous dépasse et qui nous revient en pleine tête quand on porte un bébé et qu'on le met au monde, c'est ce truc qui est bien au-dessus de notre pauvre société de consommation, parce que tout ça va partir en éclats, mais la puissance de la vie, alors après on appelle ça comme on veut, l'univers, il y en a qui appellent ça Dieu, j'aime toujours ressortir mon petit exemple, mais je veux dire, tu prends un pépin de pomme, est beaucoup plus performant que ton iPhone. Tu mets ce truc dans la terre, il va sortir un pommier qui va te donner des pommes. Mais en fait, tu dis ça, les gens, ça les fait glousser quand tu dis ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il y a dans un pépin de pommes et de la biodiversité qui est partie, je ne vais pas remonter jusqu'au Big Bang parce que je trouve que c'est un peu une fumisterie ce truc-là, mais en tous les cas, la biodiversité sur la Terre avec le début, les premières cellules vivantes, là, je pense qu'on a quand même, il y a un bon faisceau de présomption sur la manière dont la vie s'est développée sur Terre. C'est démentiel, il n'y avait rien. Il y a un moment eu une cellule vivante et de cette cellule sont nés les macaques, les humains, les bananes, les orchidées. C'est complètement dément.
Oh, bien sûr.
Alors, on peut ricaner, enfin, je veux dire, avec Amazon et les smartphones et tout ça, c'est de la fioriture qui est bien pratique. Je suis ravie d'avoir accès à toutes ces choses-là parce que mon travail repose beaucoup sur la technologie. Mais tout ça, c'est peanuts. Tout ça, ça peut se barrer en couilles. Je ne sais pas si un jour, il y aura le collapse, le fameux. D'ailleurs, c'est difficile. Moi, je suis coincée entre deux trucs. J'imagine un moment le collapse. Donc, je me dis, OK, je garde. Peut-être qu'on va s'acheter une vache, je ne sais pas. La place pour faire pousser des patates. Et, tu vois, et de me dire, si vraiment tout ça part en couilles, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour ça aussi que mon chéri apprend à naviguer. Mes enfants aussi. Enfin, bon, l'idée, tu vois, j'en sais rien. Bref. Et en même temps, je développe mon équilibre professionnel et économique et familial sur un travail qui repose que sur la technologie. Si Internet se part en couille, moi, c'est fini. Hein.
Ouais.
C'est fini. Je ne sais pas faire grand-chose. Enfin, je sais faire plein de choses, mais bon, j'ai toujours travaillé dans la vidéo, l'audiovisuel, et tout ça, ça ne sert à rien. Je me rassure avec la musique. Tu vois, ma contrebasse, même avec le collapse, elle fonctionnera toujours. Mon orchestre baroque aussi. Et pour moi, l'art est la chose qui donne du sens à l'humanité, quoi. C'est là-dessus l'humain chapeau, quoi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.